Tous les jeudis, 21h, 22h, c'est Direct à l'antenne. Direct à l'antenne sur les ondes de Couleur FM. Monsieur Olivier et son équipe débarquent au programme. Invités, interviews, rubriques, choc et sexy. Alors, si t'as tout compris, les jeudis, c'est No Limits sur le 97.1. Plus d'informations sur le www.couleurfm.fr.
Et oui, nous sommes en direct, 21h et quelques petites minutes, hein. Il est une minute exactement. Vous êtes bien dans l'émission Direct à l'antenne sur Couleur FM, bien entendu, comme tous les jeudis, 21h, 22h. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remerciera jamais assez. Ce soir, l'équipe est au complet puisque nous avons la technique. Il est toujours beau, il est toujours célibataire, les filles, avec le côté mission impossible. Il n'arrive plus à le retrouver tellement. Le CD, il est parti en lambeaux, il a fumé, on le retrouve plus. Ah, c'est une copie. C'est pas bien de télécharger un truc qui n'est pas le vrai disque, le vrai CD. C'est une copie, ça n'existe plus. Voilà. C'est notre ami Lolo qui est nous, avec nous ce soir à la technique. Bonsoir.
Salut.
Tout va bien pour toi aussi?
Oh, bah moi, ça va tranquille.
Impeccable, super. Passez aussi une bonne semaine, hein, comme on dit à chaque fois. Mais c'est vrai que là, on arrive plutôt vers le côté du printemps. On parlera un petit peu du printemps, on parlera un petit peu de l'été. Et en même temps, on parlera de notre invité qui est avec nous ce soir. Il est beau, il est jeune, il a toujours la classe. Il est animateur, parce que c'est animastar.com. Mariage, sonorisation, tellement de vie de garçon. Et puis en même temps, c'est un DJ Max Stuff. Tout le monde le connaît en région Rhône-Alpes. Il est là avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Tout va bien, super la forme.
Ah oui,
aussi.
Je suis à fond.
Impeccable, le côté un petit peu. Vincent Diesel.
Italien.
Elle est belle et ravissante, elle est vêtue de rose aujourd'hui, comme ses yeux qui pétillent. L'amour, bien entendu. Elle n'est pas célibataire, on vous le rappelle. Elle nous fait la rubrique coquine à partir de 21h45. C'est Émilie.
Bonsoir à tous.
Tout va bien aussi, super.
Ça va, super. Bon anniversaire à Toff quand même, hein, parce que c'était il y a cette semaine.
Oui. Ouais.
C'était lundi, c'était lundi.
Ça fait quel âge?
C'était alors.
Ah, quand même.
34.
On va pas le dire.
À l'envers.
Donc, elle est là, elle est avec nous. On va pas. On va pas la cuisiner, non, on me demandait si j'allais la cuisiner, quoi. Mais bien entendu que non. On a invité des chanteurs, des auteurs, des gens du cirque. On a invité magicien, des cascadeurs, des magiciens, de tout. On a invité de tout, oui. Jamais. Oh non, jamais.
Jamais.
Je ne me suis pas présenté, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est monsieur Olivier Medium.com. On peut retrouver sur mon site internet. Sinon, pour les intimes, voilà, c'est Olivier. Merci qui m'ont tous les gens qui m'ont suivi la semaine dernière sur différentes télé et radios. J'ai reçu plein de mails et plein de textos. Merci à vous, vraiment. C'est pour vous que je le fais. Vous savez quoi, les amis? On a une webcam et voilà. Je vous fais un cœur, vraiment. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous m'avez envoyé je ne sais pas combien de textos, que je passais bien à la télé, que... Je sais, mais c'est pas grave, parce que ce soir, notre invitée, elle est là, elle s'appelle Karine, avec un K ou avec un C?
Avec un K.
Ça fait un peu junior, avec un K, d'accord.
C'est pas le cas, effectivement.
Donc elle est là avec nous, merci d'être avec nous, pourquoi? Parce que Karine, tout simplement, c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde, puisqu'elle est aide-soignante dans un hôpital de la région, mais on ne dira pas lequel.
Rhône-Alpes, voilà.
Pas loin. Donc, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, alors, on avait envie, effectivement, d'inviter une aide-soignante, parce qu'on voulait savoir comment ça se passe. Alors, on a divers questions. Karine, donc, c'était le côté, déjà, depuis combien de temps vous êtes dans le domaine des soignants? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes partie dans le domaine médical, Karine?
Alors, ça fait déjà 24 ans que je suis aide-soignante.
Ah, quand même.
Déjà, ouais, ça se voit pas, mais c'est le cas.
Non.
24 ans, pourquoi je suis partie dans le domaine médical? Je dirais que la vie m'a amenée sur ce chemin, on va dire, assez tôt. Je voulais effectivement passer un concours d'infirmière, ça ne s'est pas fait. Et puis bon, le domaine médical était vraiment pour moi le chemin le plus important, voilà. Mmh. Et puis une école d'aide-soignante en 89, voilà. Et puis différents chemins après, dans différentes structures, voilà, en passant par... par les personnes âgées, en passant par après la réanimation, voilà. Et puis maintenant, dans un secteur complètement différent, la psychiatrie, voilà.
La quoi?
La psychiatrie.
Ah,
C'est autre chose.
Hein. Ça fait,
c'est complètement autre chose.
Oui. Alors pourquoi je disais, mais on va en parler. Donc pendant une heure, vous êtes là, on va décrypter un petit peu votre métier parce que c'est vrai que.
Aide-soignante, infirmière, c'est.
Oui.
Alors c'est pas pareil, attention. Hein.
Oui.
Les infirmières, elles ont droit de faire certaines choses que les aides-soignantes n'ont plus le droit de faire.
Exactement. Enfin bon, il y a toujours eu effectivement, de toute façon. Des tâches complètement différentes. C'est vrai que bon, il y a 23 ans, bon, voilà, on tolérait encore des choses de la part des aides-soignantes. On va dire que pendant 23 ans, on a été un petit peu mangé à toutes les sauces. Voilà, une année oui, une année non. Le lendemain peut-être. Mmh. Voilà.
Sauce barbecue. Sauce
voilà,
mayonnaise,
c'était un petit peu ça, ouais.
Sauce curry.
Et puis donc nous, on est vraiment dans le nursing, c'est-à-dire l'accompagnement du patient, hein, avant toute chose, dans tout ce qui est les soins d'hygiène avant tout. Voilà, l'accompagnement aussi psychologique, bien entendu, tout ce qui est l'aide au repas, voilà, l'aide quand on fait une entrée, enfin les choses comme ça. Et puis l'accompagnement, c'est-à-dire le travail en binôme avec les infirmières, voilà. C'est-à-dire qu'elle va nous déléguer en fait des tâches, voilà. Mais on va tout le temps être sous le couvert d'une infirmière en fait. Hein.
Alors qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à avant ? Parce que moi je sais que ma maman est aide-soignante et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Ouais, mais les choses d'avant ça se dit pas.
Ah.
Pourquoi ça se
bah,
dit pas
parce que voilà, c'était, on va dire que c'était pas non plus dans le diplôme d'aide-soignante non plus au départ, mais bon, voilà, je dirais que c'était ancré depuis des années dans certains secteurs, et surtout le secteur de la personne âgée.
Voilà.
Et on pouvait pas faire autrement, et puis bon, bah, c'était comme ça, quoi. Les années passaient, et puis bah, les aides-soignantes faisaient telle ou telle chose qui, effectivement, n'était pas de notre ressort, hein. Bon, surtout au niveau, au niveau traitement, on donnait les traitements qui étaient préparés effectivement par les infirmières, mais enfin bon, chose qu'on n'a pas le droit de faire en fait, tout ce qui est médicamenteux, on n'a pas le droit d'y toucher en fait. Hein.
Oui, voilà. Mais alors que vous avez, par rapport à des infirmiers, vous n'avez pas forcément un moins. Enfin, il y a quelques études en plus des infirmiers.
Ah bah complètement, parce que nous, on est sur un cursus. Alors moi, à l'époque, on était sur un cursus d'un an. Maintenant, elles sont sur un cursus de 10 ans. De 10 mois, plutôt. Qu'une infirmière, elle est sur un cursus de 3 années, ouais. Quand même.
Mais bon, vous êtes quand même pas des... Enfin, on va dire que vous êtes quand même pas des incapables. Enfin, on vous donne des choses à faire. Si on vous le fait, c'est qu'à la base...
Ça n'empêche que, de toute façon, dans le diplôme, tout ce qui est médicamenteux, une aide-soignante n'a pas le droit d'y toucher.
Ouais, voilà. Mais du coup, aujourd'hui,
et l'infirmière
même,
a le droit.
Exactement.
Mais aujourd'hui, il y en manque quand même des aides-soignants, parce qu'en fait, toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes vont tous vers les infirmiers. Une grosse majorité.
Oui, enfin bon.
Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, Karine, vous avez le droit. Hein.
Après, il y a aussi le niveau d'études qui va faire que, aussi, voilà, on peut s'orienter sur le secteur médical, mais je dirais que pour être infirmière. Bon, le cursus plus global, c'est effectivement de passer un bac et puis après, effectivement, de préparer l'école d'infirmière. Bon, après, c'est vrai que n'ayant pas le bac, on peut aussi accéder à un diplôme d'infirmière puisque de toute façon, quand vous avez fait 3 ans au sein d'un hôpital, vous pouvez prétendre effectivement à faire une validation des acquis et après à passer un concours infirmier qui est un petit peu différent des jeunes qui ont le bac, voilà. Donc les portes sont pas fermées, mais au niveau être soignant, c'est vrai qu'on a moins, on est moins dans une tranche d'âge jeune, voilà.
Voilà, ouais. Donc il en manquera dans quelques années.
On va dire que oui, tout à fait. Et puis même dès le départ, je dirais que les infirmières à 18 ans, c'est des jeunes filles qui se disent bon voilà, je vais aller à l'école d'infirmière quand 18 ans. Parfois au niveau être soignant, c'est des gens qui parfois sont en reconversion professionnelle. Moi, je sais que quand j'ai fait mon diplôme en 89, j'étais la plus jeune. Voilà. Il y avait aussi des gens qui, en reconversion professionnelle, soit pour des problèmes de santé, soit parce que plus de travail dans leur secteur et du coup, besoin de se réorienter vers quelque chose.
Et le fait qu'on vous a enlevé plein de choses, mm-hmm. Est-ce que c'est pas le fait que du coup, les jeunes, ils se disent pas non, moi, je vais pas faire aide-soignant parce qu'on fait plus rien. On s'occupe que des petits vieux et puis au final...
S'en occuper des petits vieux, quand même.
Oui, non, mais il y en a beaucoup, c'est ça. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes. Moi, autour de moi, j'ai ma maman qui est aide-soignante. Ma tante qui a fait un peu... qui était aussi aide-soignante et qui est du coup maintenant... vu qu'elle a pas son diplôme d'aide-soignante, elle est en dessous. Mm-hmm. Elle est H...
SH.
Voilà, merci. Mm-hmm. Et la plupart de mes amis sont aides-soignantes. Mm. Et je vois bien, enfin, je veux dire, elle, c'est ce qui les motive, c'est au début, c'est un peu le contact qu'elles ont avec les personnes. Et puis, par rapport à un aide-soignante, c'est après aussi le salaire.
Donc, oui, mais alors tout ça, effectivement, jeunes... on va en parler en deuxième partie de l'émission. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le côté du passé en même temps. Est-ce que les choses ont changé, je dirais, peut-être par rapport à la rivalité, par rapport à l'ambiance, par rapport à toutes ces choses-là, concernant, vous disiez tout à l'heure, en 89, c'est ça, non, que vous avez commencé juste en deux mots, l'ambiance qu'il y avait en 89 par rapport à celle de maintenant.
C'est plus du tout la même.
Alors voilà, alors celle d'avant justement, c'était quoi ? C'est les choses que vous aimez bien par exemple, en trois phrases, en trois mots, ça veut dire que les choses qui étaient positives pour vous et négatives.
Je dirais que il y a une quinzaine d'années, je pense qu'effectivement les choses ont pas mal bougé dans le sens où on a beaucoup hiérarchisé effectivement les structures médicales qu'avant on s'autogérait en fait beaucoup. Voilà, et puis ça se passait très bien. Et on a mis de plus en plus, en fait, de cadres à l'intérieur des structures. Et on ne s'y est pas franchement retrouvés, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des chefs un peu pour tout. Alors que, bon, sans chef, on s'en sortait quand même pas trop mal, quoi. Voilà. Donc, ça a cassé pas mal les ambiances, déjà par rapport à ça. Et puis, je dirais, tout simplement, par rapport à la vie de tout le monde qui a changé aussi. Et puis... Et une génération différente qui arrive sur le monde du travail aussi. Voilà, qui est peut-être moins motivée, qui a peut-être moins l'esprit effectivement d'équipe, l'esprit de se dire, voilà, on est heureux quand même d'avoir du travail et on se donne les moyens de faire ce qu'il faut, quoi. Et je pense qu'il y a, il y a surtout ces deux choses. Et puis, bien entendu, après, tout ce qui est budgétaire, et ça, c'est catastrophique, quoi.
Alors, le budget rentre dans la première partie. Parce qu'on vous a mis des grands chefs pour dire attention maintenant.
Parce que l'hôpital devient de plus en plus une entreprise. En fait, c'est ça qui est par rapport à
c'est pour ça qu'on va en parler après.
On ne parlait pas du tout de rentabilité. Alors après, on ne peut pas parler de rentabilité, bien entendu, parce qu'on ne produit rien. Mais effectivement, après, on a mis effectivement des cadres de ci, de là pour justement serrer les robinets, les fermer même un petit peu beaucoup et puis faire des économies. Et...
Vous parliez par rapport au niveau du domaine de l'effectif,
on refait complètement. De toute façon, un effectif, c'est 80 à 85% d'un budget de l'hôpital. Donc, de toute façon, Après, le personnel, c'est ce qui coûte le plus cher au sein de l'hôpital.
Une journée avec vous, c'était quoi ? On n'est pas dans l'émission Vie ma vie, on est bien sur Couleur FM, dans l'émission directe à l'antenne, tous les jeudis 21h-22h, je rappelle. Mais c'était quoi pour vous une journée quand vous avez commencé ? Dites-nous un peu votre journée.
En gériatrie.
On peut expliquer un petit peu ce que c'est la gériatrie pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas.
On va dire que c'est le secteur des personnes âgées, maisons de retraite. Alors après, on a différents secteurs. On a les gens qui sont en maison de retraite, qui ont encore une capacité quand même assez importante.
Motrice.
Psycho quand même assez bonne. Et puis après, on a des secteurs un petit peu plus lourds. Et la journée d'une aide-soignante, de toute façon, c'est avant tout prendre une relève avec les équipes de nuit. Et puis après, c'est.
C'était avant.
Tous les soins de nursing.
C'était avant ça.
Ça, c'était de la gériatrie.
Voilà, ça, c'était quand vous avez commencé, pour les auditeurs qui viennent d'arriver, c'était en 89. Donc, justement, vous avez commencé comme ça. L'ambiance était comment ? C'était déjà un plaisir, puisque vous avez passé votre diplôme. Vous avez commencé dans votre premier hôpital, qui peut être dans la région ou autre, voilà. Mmh. Mais c'était quoi ? C'était vraiment un côté où c'était. Dans le terme du sens, mais c'était vraiment le côté jouissif de se dire je commence. Ça connaître ou j'apprends ce métier.
De toute façon, c'est vrai quand on sort d'une école d'aide-soignante ou quand on sort d'une école d'infirmière, on sait encore pas grand-chose qu'en fait. C'est vrai qu'on apprend vraiment sur le tas aussi. Comment ?
On sait rien.
On sait rien. C'est pas qu'on sait rien, c'est vrai que
on sait la théorie, mais on sait pas la pratique.
Exactement. Et je dirais qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. En même temps, comme je dis, quand on sort d'un diplôme et quand on est sur les études, c'est de faire au mieux, voilà, parce que c'est vrai qu'après, on ne nous donne pas les moyens de faire au mieux. Donc,
ça, justement, on en parlera après, oui.
Si déjà, effectivement, au départ, pendant son année d'études ou ses 3 ans d'études d'infirmière, on n'essaye pas de mettre en pratique déjà ce qui nous est appris au mieux, c'est sûr qu'après, on fera un travail qui est pas satisfaisant.
Et le rapport avec les... Avec les chefs, comment on dit ça, les, l'autorité avec le.
Avant, pour bien détailler. Pas maintenant. On reviendra après à maintenant, mais avant, oui, comment c'était effectivement les chefs.
C'est plus familial. C'est ça, des choses qui étaient plus familiales. C'était des ambiances plus familiales, surtout. Voilà, après, ça. Ça s'est beaucoup plus hiérarchisé, donc
il y avait moins l'effet chef et
tout à fait.
C'était
tout
plus
à fait.
Avant.
Donc aujourd'hui, ça c'est plus le rapport entre l'autorité, les patrons, ça marche à la braguette. Alors c'est
la baguette, il m'a semblé, je n'ai pas soulevé,
je ne suis pas permise, mais bon,
je ne sais pas où était
passé. Il y en a un qui a l'esprit mal tourné ce soir, hein, je ne veux pas dire, mais bon, hein, t'as pensé avec le bas et pas avec le haut, hein. C'est pas bien ça.
Non, alors, à la braguette, non, enfin, ça peut se passer, parce que bon, effectivement, au sein de l'hôpital, c'était bien assez répandu à une époque, hein, que, bien entendu, toutes les infirmières étant... Ce qui n'était pas forcément le cas, voilà.
Oui, c'est moi hiérarchique. Là, c'est moi qui porte la culotte. Donc, je vais dire que je vais quand même reprendre le flambeau.
Vas-y.
Non. Pardon, c'est du
flambeau, ça, c'était pas bien. Hein.
Non, mais c'était bien trouvé. Mais...
À la baguette, non, oui. Mais bon, voilà, c'est... des formations pour ci, des formations pour là, voilà.
Des fois rien.
Et quand on n'a pas les moyens, effectivement, quand on nous demande vraiment de faire un travail de qualité, mais que vous devez courir toute votre journée, forcément, voilà, vous ne pouvez pas faire des soins de qualité quand, effectivement, vous devez avoir normalement une heure pour une toilette et que vous avez 10 minutes, quoi. Donc, enfin, voilà, moi, faut pas. Voilà,
ça, c'était avant.
La gériatrie, ça a toujours été compliqué.
Ça a toujours été compliqué.
Ça a toujours été compliqué puisque au niveau du personnel, voilà, ça a toujours été les parents pauvres de l'hôpital, quoi.
D'accord. Donc vous avez été. Donc on sait très bien que vous avez le secret professionnel, qui est tout à fait normal. Donc on ne va pas rentrer sur ce domaine-là. Maintenant, parce qu'on sait que vous ne direz rien. Donc voilà, mais c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à votre honneur. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu ce côté du passé, effectivement, qui était peut-être plus familial. On avait le côté où on était contente d'aller au boulot.
Oui, complètement.
On était vraiment.
Ouais, tout à fait, ouais.
On voyait les copines, les copains, ouais. On voyait les gens. Le côté des gens aussi, bien entendu, parce que je pense qu'il y a un moment où il faut aimer quand même 90% des gens si on fait ce métier ou pas.
Bien sûr.
Ça, on parle toujours d'avant, parce qu'après, on en a sous le pied. Hein, oui, mais bien sûr, c'est normal. On monte crescendo.
Mais à l'heure actuelle aussi, il faut encore aimer les gens, quoi. Non, et heureusement, quoi, parce qu'autrement, on ne peut pas faire ce métier.
Enfin, c'est peut-être pas pareil. Avant, je pense que vous aviez un lien quand vous aviez envie de vous. Voilà, il y avait un jour où vous aviez besoin de votre jour, vous alliez voir la collègue, oh, ben, est-ce qu'on ne peut pas échanger.
Voilà, complètement.
Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça doit se faire, mais beaucoup. Moins, s'il doit falloir passer par la hiérarchie, il doit falloir
tout à fait. Bon, après, ça dépend des services, ça dépend des cadres, mais bon, ça, c'est dans le monde de tous les jours, quoi. Ça dépend des personnes, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que autant il y avait des choses qui se faisaient simplement avant et qui pouvaient bien se passer, bon, maintenant, voilà, il y a plus. Il y a une hiérarchisation, effectivement, qui est là et on est obligé de passer par ça, quoi, c'est tout.
Vous avez commencé en gériatrie, c'est ça ?
En gériatrie.
J'ai du mal à le dire.
Plus avec les personnes âgées.
Gériatrie.
Entre la braguette et la gériatrie. Ah oui,
À 21h40, on va y arriver. Hein. Et donc, voilà. Donc, vous avez commencé avec ça, la gériatrie. Voilà. Et après, vous êtes partie dans quoi ?
Alors après, j'ai tourné une grande page aussi. Donc, les grandes pages se tournent tous les 10 ans. Parce que je suis passée sur de l'urgence médicale et sur de la réanimation. Donc, tout autre chose.
Oh là, oui. Voilà. L'urgence médicale, c'est quoi ?
C'est les services d'urgence.
Il y a des questions que l'on sait. On fait exprès pour auditeurs et auditrices que ceux qui ne connaissent pas. Hein, parce que je veux dire qu'on va à l'hôpital, on en parlera après. Bon, ils prennent des termes. C'est comme chez les banquiers ou les comptables ou aux impôts, on ne comprend jamais rien. Mais non, mais c'est vrai. Mais heureusement que vous êtes là. Bon, les autres, moins, surtout les impôts. Mais ce que je veux dire. S'il faut un coucou, on qui nous écoute. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a vraiment un côté, si vous voulez, par rapport à ce niveau-là. Est-ce que pour vous, c'était quand même une vibration d'ambiance, une vibration saine. J'aimerais bien venir sur le côté, est-ce que c'était vraiment sain avant ? Est-ce que c'était vraiment ce côté où chacun se disait tout ? Après, vous étiez dans la gériatrie, après vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à la réanimation, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ce que c'est la réanimation, pareil pour les gens qui ne connaissent pas ?
La réanimation, on va dire que c'est le service où... vaut mieux pas être, quoi, voilà, tout simplement. Hein.
C'est ce qu'on appelle
les cas les plus lourds.
Les fins de vie ?
Non, pas forcément.
Alors ça, il y aura autre chose, alors, après.
Non.
Il y a combien de services, tiens ?
Où ?
Bah dans un hôpital.
Ah
par
bah
exemple.
ça dépend de la structure, enfin de la grandeur de l'hôpital, mais
dans
bon,
un gros
après,
hôpital dans le coin, dans la région.
J'ai pas fait le compte. Exactement.
Non mais en gros ceux qui vous reviennent, on parle souvent de la gériatrie. Bah
après il y a différentes chirurgies, il y a les secteurs de gériatrie, secteurs d'urgence, les secteurs de réanimation, le viscéral. Enfin je sais pas, on va être à peu près sur une quinzaine de services au moins au sein d'un hôpital à peu près.
Ah quand même.
Ah oui tout à fait. Bon, après, vous pouvez avoir les pédiatries. Vous pouvez aussi avoir dans certains secteurs de la psychiatrie. Enfin, bon, je sais pas, j'ai pas fait le compte exact.
Non, mais sans savoir exactement, effectivement. Mais vous avez ce côté en même temps. Est-ce que pour vous, il y a un petit peu, je vais dire pour moi, des regrets concernant ça par rapport à changer de service? Un exemple, par exemple, de changer de la gériatrie après de passer...
Je dirais que l'intérêt aussi de notre métier, quand on veut justement faire un peu autre chose, c'est qu'on a des possibilités de le faire. C'est-à-dire que quand on passe d'un service de gériatrie à un service de réanimation, on a un travail qui est complètement différent, quoi. Donc c'est l'intérêt que, quand même qu'on a au sein d'un hôpital, au sein de l'hôpital, c'est de pouvoir s'orienter sur différentes choses en étant toujours dans la même fonction. Voilà.
Mais la gériatrie, c'est quand même, enfin, entre guillemets, plus calme, on va dire.
Plus calme.
On va s'écouter un petit son après.
Alors que la réanimation, ça doit être quand même, on doit plus courir quand même, non ? Ça doit être plus stressant.
C'est pas du tout la même chose. Après, en réanimation, effectivement, on peut courir pendant 12 heures. Comme en gériatrie, on peut courir pendant 12 heures aussi, quoi. C'est pas du tout le même travail.
Oui, mais vous n'allez pas courir de la même façon, je pense qu'en...
Non, dans, voilà. Dans mais je dirais qu'en service de réanimation, on est pareil sur un travail complètement continu parce qu'on est réglé par des tours horaires. C'est-à-dire qu'on va voir les patients en permanence et régulièrement toutes les heures. Voilà, ou enfin, pour certains autres qui sont moins graves, c'est un petit peu moins important. Mais il y a vraiment des tours horaires à respecter. Et puis bon, bah, on est confronté à vraiment l'urgence vitale.
Voilà.
Donc, mais comment on peut être confronté à l'urgence vitale en gériatrie, hein ?
Oui, mais
c'est-à-dire que bon, vous avez un patient qui fait une fausse route, vous avez un patient qui fait un arrêt cardiaque ou
oui, mais une détresse respiratoire. Oui, mais en gériatrie, c'est souvent des personnes plus âgées. Donc, on s'y attend, entre guillemets, on s'y attend plus que, voilà, si on choisit, si on gériatrie, c'est qu'on aime les personnes âgées, qu'on a le contact, alors que...
Mais la réaction va être aussi, effectivement, d'aller...
Oui, de sauver, parce que c'est votre métier.
C'est humain.
C'est votre métier. Mais dans le deuxième cas, c'est l'adrénaline qui pousse à aller là-dessus.
Tout à fait.
C'est voilà, enfin le premier truc, c'est plus voilà reposant avec les gens, avec les personnes âgées, parce qu'ils aiment bien discuter avec vous prendre la main pendant trois quarts d'heure, alors vous avez autre chose à faire. Enfin, alors que l'autre, c'est
ça,
plus
c'est le tableau le plus
quoi.
Idyllique hein, quand
oui,
même.
Oui,
hein,
parce que c'est pas comme ça.
De la personne âgée
oui,
quand même.
Parce que c'est pas comme ça.
Justement, les filles, 21h23, on passera au tableau. Hein, après, justement, les côtés très délicats, effectivement, dans le domaine de la gériatrie, par rapport aux personnes âgées, tout ça, on va en parler, hein, bien entendu, puisqu'il nous reste encore 35 minutes d'émission. 21h23, on est bien dans l'émission directe à l'antenne sur Couleur FM. On s'écoute un petit son, les amis. Ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, Karine est là. Elle travaille dans un hôpital qui est très connu dans la région. On va taire le nom, tout simplement, sur les professionnels l'oblige. On s'écoute un petit son. Soprano, les amis.
Allez.
C'est le dernier ?
Le clown ?
Ouais, le clown, ça cartonne. Allez, à tout de suite. Surtout, soyez pas triste, hein. À tout de suite.
Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge ? Ce soir, je suis payé. Je remets mon nez rouge. Pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait de ronger sa laisse. Mais ce soir, la salle est pleine. Vous voulez que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. va porter ce masque. Suis-je seul à faire semblant? Ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure ou nous va-t-il trop grand?
Bon, on est parti, 21h27, on est bien dans l'émission directe à l'antenne sur Couleur FM. Un petit bonsoir à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Il y en a tellement, je pourrais pas tous les citer, mais bonsoir aussi à ma maman, que je lui fais un gros bisou et que je l'aime très fort. On dit comme je dis à chaque fois, mais on dit jamais à sa mère qu'on l'aime très fort. Oui. Voilà, donc il faut leur dire. Et on fait un petit bonsoir aussi à Tirobi, en même temps qui viendra avec nous dans les studios quand il veut, hein, quand on trouve une petite place, on dira, allez. Bah tiens, on parlera de musique, on l'invitera. Donc voilà, Karine qui est là avec nous, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, dans un hôpital qui est dans la région, bien entendu, on a le secret professionnel et on va pas citer le nom de l'hôpital, je vois pas l'intérêt. Donc elle nous parlait tout à l'heure de gériatrie, hein, nous parlait de personnes âgées. Là on a entendu la dernière soprano, donc justement c'était avec le clown. Ouais. Et on va pouvoir lui poser des questions en même temps, hein, si il y a des clowns qui pour les enfants malades.
L'expérience personnelle, oui. Mon fils quand il était malade, ouais, ouais. C'est vrai que il y avait des clowns qui étaient venus, disons l'amuser quoi en fait pour parce que c'est vrai que les enfants.
Bah, ça doit pas être dans tous les hôpitaux, ça je pense.
Alors au niveau des personnes âgées, effectivement. Ils arrivent à mettre en place en fait des ateliers d'animation. Alors c'est très souvent effectivement des aides-soignantes qui ont eu des problèmes de santé, de dos et qui du coup voilà au niveau manutention ne peuvent plus manutentionner, ne peuvent plus porter les malades. Et c'est vrai qu'ils s'orientent en fait vers des formations d'animation. Bon, moi j'ai fait deux maisons de retraite et c'était le cas. Ils essayent quand même de mettre ça en place au niveau des personnes âgées quand même, je pense dans quand même pas mal d'établissements.
Pour les personnes âgées aussi, alors
ça dépend, hein, ça peut être des ateliers peinture, ça peut être des ateliers dessin, ça peut être un petit peu des ateliers gym entre guillemets, ne serait-ce
des
que
des quiz, des choses comme ça pour la mémoire,
nous avoir un ballon, ne serait-ce que leur faire rattraper un ballon, ce qui est pas évident
pour
par rapport à la connexion des mouvements chez certains, voilà, parce que je dirais qu'ils sont quand même dans un environnement où on les stimule très peu.
Parce qu'il paraît que quand les anciens ils arrivent dans les maisons de retraite, ils perdent 10 ans d'un seul coup.
Mais tout à fait. Ils perdent leur repère complet. Donc
ils perdent, ça veut dire quoi? Ils ont 70 piges? Non. Ils ont 80 quand ils
rentrent? Non, mais non. En fait, quelqu'un qui
tous
est
les
chez
repères,
lui,
hein, tout
quelqu'un
le...
qui est une personne âgée qui est chez lui, même s'il commence à plus pouvoir, il va essayer de faire à manger, il va essayer de faire sa lessive, même s'il va tout faire à l'envers et qu'il va faire du grand n'importe quoi, il va quand même le faire. Alors que quand il rentre à l'hôpital, automatiquement c'est la famille qui vient faire le linge, ou alors une laverie qui vient chercher les vêtements. Si la cuisine, la plupart du temps on leur apporte directement au lit, ou pour ceux qui peuvent dans les réfectoires, donc du coup ils font moins de choses,
tout
quoi.
Tout à fait. Et puis après il y a ce qu'on appelle aussi un syndrome de glissement, c'est-à-dire que voilà, je dirais que personne ne souhaite se retrouver quand même dans une structure de personnes âgées. Et c'est vrai que quand on n'a pas le choix, effectivement, de garder ses parents, de les aider jusqu'au bout, ou qu'ils puissent rester effectivement chez eux avec une aide médicalisée, bon, bah voilà, je dirais que ils se sentent mourir, entre guillemets, quoi. C'est ce qu'on appelle après le syndrome de glissement. C'est-à-dire, moi, on en fait et voilà.
Parce que l'hôpital, les personnes âgées qui vont dans les hôpitaux, c'est, entre guillemets, c'est ce qu'on n'a pas d'argent. Enfin, je veux dire, l'hospice qu'on appelait l'hospice.
Anciennement l'hospice, oui. Effectivement, plus, ça, l'hospice. Moi, le premier établissement que j'ai fait, c'était un ancien hospice, effectivement.
Ça n'existe plus. Les hospices n'existent plus.
Hospice, on peut expliquer un petit peu ce que ça veut dire.
On recueillait effectivement les gens qui n'avaient rien, quoi, en fait. Et c'était plutôt voué à ça, à recueillir ces gens qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas de chez eux.
Ça n'existe plus, alors.
Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui, à un moment donné, vont se retrouver à nouveau à la maison de retraite. Mais on n'appelle plus l'hospice, on l'appelle la maison de retraite.
La maison des petits vieux, quoi.
Voilà,
non,
tout à fait.
Parce que la personne qui n'a rien, qui n'a pas de retraite, rien, qu'est-ce qu'ils en ont fait, alors?
Justement, il va se retrouver aussi à la maison de retraite.
Avec
des aides publiques.
Dans des EHPAD,
personnes âgées.
Ce qu'on appelle des EHPAD maintenant, ou EHPAD, alors des maisons de retraite.
Tout à fait.
Voilà. Si vous voulez nous appeler, c'est 09 79 21 33 77. Karine, qui est avec nous, qui est dans un hôpital du moins de la région, comme je disais tout à l'heure. On tirera le nom, tout simplement. Et on peut retrouver le podcast de l'émission sur www.couleurcouleur15fm.fr. Le podcast de l'émission, vous irez dans émission, justement, podcast, et vous verrez. Vous pourrez réécouter l'émission que Lolo nous aura mis demain sur le coup des 12h. Voilà, à peu près. Hein, 12-13h, je vois à peu près à quelle heure il met l'émission maintenant.
13h de l'après-midi.
13h de l'après-midi, oui, pas 13h du soir, effectivement. Donc on parlait, voilà. On est dans la deuxième partie. Hein, on y arrive petit à petit. Moi, j'aurais peut-être une question quand même à poser là-dessus. C'est que, est-ce que ça ne devient pas. Alors pour moi c'est un des plus beaux, c'est comme sage-femme et tout ça, pour moi c'est un des plus beaux métiers du monde. Est-ce qu'il y a un côté où, ma première question déjà, ça sera, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas craquer dans un hôpital? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a les gens qui répètent beaucoup, il n'y a pas besoin d'être vieux pour être comme ça, mais après il y a les gens qui insultent, il y a les gens qui ont une odeur pas terrible aussi. Il y a des gens qui sont chiants, il y a des gens qui ont des maladies, comme l'Alzheimer, on pourra en parler.
Oui,
des gens, malheureusement, qui ont le sida, qui ont le cancer, des gens qui sont en fin de vie. Oui. Comment vous pouvez tenir à toutes ces choses-là, sans compter tout ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez à la radio, que vous vivez tous les jours? Comment vous arrivez, vous? C'est quoi la force, c'est quoi le remède, s'il y en a un, qu'il faut avoir pour tout simplement supporter tout ça?
Je dirais qu'il faut se faire petit à petit sa carapace, hein, tout simplement. On ne peut pas prendre le malheur de tout le monde non plus, quoi, parce que sinon, effectivement, comme tu dis, à un moment donné, on va craquer, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes et des cas qui vous touchent plus que d'autres.
C'est quoi, par exemple? Il y a eu un cas il n'y a pas longtemps, des enfants, que c'est dur pour vous, en fin de vie? Quand j'ai enfin dit,
moi je sais pourquoi j'ai fait soignante et pourquoi j'ai pas fait auxiliaire puère, parce qu'effectivement voir des petits bouts en fin de vie, ça non, par contre je ne pouvais pas, ça c'est pas possible pour moi. Après,
et vous avez des collègues qui le font?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Comment vous discutez avec elles? Comment elles arrivent à faire, justement?
Moi, j'ai pas de connaissances avec de personnes qui travaillent en pédiatrie. Enfin, si, j'en ai une, mais bon, voilà, c'est vrai que les cas les plus critiques, après, ça part sur des structures un peu plus spécialisées, donc. Voilà, mais bon, ça lui est déjà arrivé. Bon, après, on n'en a pas parlé.
Vous parlez pas de boulot entre vous?
Si, bien sûr que si.
Ouais, mais je pense que après, quand un bébé décède d'autre, c'est douloureux. Parce que moi, j'ai une amie qui était infirmière, mais justement en péricultrice, et qui était vraiment, elle était vraiment dans le secteur des bébés, mais malades, vraiment en fin de vie. Quand elle a eu son enfant, elle a arrêté, quoi. Enfin, elle pouvait plus.
Voilà, tout à fait.
Elle est récente. Voilà, elle est infirmière aujourd'hui libérale, mais elle pouvait plus, quoi. C'est. Je pense qu'après, il faut pour cette partie là, c'est particulier. Il faut vraiment avoir le cœur accroché, quoi, parce que c'est pas évident.
C'est surtout,
quoi,
l'équipe qui fait aussi les choses, c'est-à-dire pouvoir en parler en équipe et pouvoir
c'est un groupe.
Voilà, complètement.
C'est
solidaire. Pouvoir en parler.
C'est
Pas tout le temps, pas tout le temps. Après, on sait à qui on parle pas, avec qui on peut se libérer, à qui on peut dire.
C'est une
voilà.
rivalité quand même.
Non, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend. Pour certaines, oui. Pour certains,
être soignante, par exemple, infirmière.
Ça peut l'être.
Par rapport à quoi?
Ça peut l'être. Par rapport à ça, j'ai pris du recul parce que voilà, je suis dans ma fonction et voilà et. Et c'est vrai qu'à une époque, j'ai voulu passer un diplôme. Je l'ai raté. Mais
ça arrive. Hein.
Mais bon, voilà.
Peux retenter ta chance.
Mais je suis heureuse d'être où je suis à l'heure actuelle parce que c'est vrai qu'on en demande de plus en plus. Et les infirmières, on leur en demande de plus
alors
en plus.
Alors, ça, on va en venir
et
effectivement.
Avec une responsabilité de plus en plus grande et avec moins en moins, effectivement, de filet derrière. Quoi. Et du coup, j'avais pas envie de prendre non plus trop de choses sur les épaules. Donc, je suis très bien où je suis actuellement.
Pour dédramatiser la chose, franchement, c'est une des premières émissions, on est sérieux parce qu'habitude on déconne tout le temps. Donc là, mais là, c'est vrai que c'est un métier noble quand même. C'est beau métier.
Il faut pas dénigrer.
Surtout pas. Non, et puis en plus, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que. Alors là, ma question va être un petit peu crue, mais est-ce que des fois, vous vous foutez un petit peu de la vous me dites oui ou non ou on n'a pas le droit de joker ici hein. Mais est-ce que vous foutez un petit peu de la gueule des patients? Je vous dirai pourquoi, sincèrement, je vous dirai pourquoi après.
Mais bien sûr, enfin, je dirais pas se foutre de la gueule,
d'être
mais
moqueuse,
mais voilà, pouvoir pouvoir dédramatiser, en rire, et justement, c'est ce qui fait qu'on peut lâcher aussi des choses et voilà, ne pas tout prendre à cœur.
C'est dire quoi
en permanence.
Celui-là, il pourra pas courir, il a pas de bras, pas de chocolat, il a pas de jambes.
Des anecdotes.
Tiens, il y en a un petit peu les anecdotes.
Allez, une petite anecdote.
Oui, non.
Alors, juste pourquoi je voulais dire ça, parce que tout simplement, quand je dis de se foutre de la gueule, c'était vraiment, c'était pas péjoratif, faut pas le prendre au premier degré, bien entendu. C'était sur ce côté en disant, on en prend plein la figure quand même de ce qui se passe de toute la journée.
On en prend plein la figure sur la déchéance humaine.
Voilà. Donc, il faut savoir en rire.
On dit,
t'as vu celui-là, dans pas longtemps, il glisse.
Il faut se lâcher.
Non.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça. Ça. Mais
pour dédiaboliser.
Pour c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un côté où ça doit être quand même dur de prendre tout en pleine face au niveau du domaine des énergies, au niveau du domaine des gens qui sont en fin de vie, au niveau des gens qui viennent voir les gens qui sont malades.
Je dirais que c'est surtout quand on commence. Et moi, j'ai commencé à 18 ans et c'est vrai quand on rentre dans le domaine médical à 18 ans.
Après,
et encore,
rodé.
À 18 ans, quand moi j'avais 18 ans, je pense qu'on connaissait un peu plus la vie que nos jeunes de 18 ans à l'heure actuelle, à qui on n'a pas demandé de faire grand-chose déjà à la maison. Voilà, et du coup, on arrive auprès d'un patient et à 18 ans, on vous dit, ben voilà, ce patient, ben, il a ça, puis il faut aller le laver, il faut s'en occuper. Et là,
Maman, t'as pas voulu arrêter ce métier mettre un sperme à cette...
T'as dit un sperme, oh, t'es en manque, là.
Non, un terme. T'es seul, pardon. J'ai dérapé.
Il y a pas besoin d'entendre.
Un terme, excusez-moi. Par rapport au niveau du domaine professionnel.
Tout à fait.
Parce qu'on arrive vers la rubrique.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça. C'est milieu, voilà. Désolé.
Je dirais que quand j'ai voulu changer, enfin arrêter, enfin entre guillemets, non, c'était pas arrêter, mais justement, je pense qu'il faut savoir partir d'un endroit et recommencer ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on peut faire avec notre métier. C'est-à-dire être complètement... Alors, c'est sûr qu'on est toujours auprès du patient, ça, bien entendu, mais quand on passe de la gériatrie à la réanimation, moi, j'ai réappris complètement mon métier, quoi. Je suis arrivée en réanimation, mon Dieu, c'était... je tremblais comme si je commençais à travailler, je savais rien... Enfin, pas faire grand-chose, parce que toute la technique...
Si vous avez des questions sur Internet, vous pouvez nous les poser.
C'est complètement autre chose, surtout avec des patients qui sont intubés, ventilés, sous respirateur, voilà.
Sous respirateur.
Sous respiration artificielle.
D'accord. Mmh. Alors là, maintenant, on va rentrer justement dans le côté de vif du sujet. Vous avez relevé quelque chose qui est très important, en disant, on est près du patient. Je connais pas mal d'infirmières, d'aides-soignantes, Gigi, voilà, que je salue, que ça fait très longtemps. C'est une amie aussi à moi qui le fait du côté, elle, de Chambéry. Mm-hmm. Il y a ce côté en même temps. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment que ça devient maintenant une usine à gaz et qu'on est plus près du patient comme on était avant?
Ah ben complètement, hein, ouais. Complètement. Ben, je dirais que le sous-effectif en premier.
Alors ça aussi.
Et puis, l'informatique à l'hôpital. Voilà.
Ça. C'est quoi donc, vous appelez l'informatique à l'hôpital?
C'est les ordinateurs qui ont pris la place, qui ont pris une grande place.
Et
une très grande place puisqu'en fait tout ce qu'on ne notait pas il y a quelques années en arrière, maintenant voilà, faut que ça soit répertorié en permanence sur une feuille de soins, un suivi patient.
Et donc ça c'est dans le timing avec le patient.
Exactement. D'accord. Exactement. Donc en fait l'infirmière est beaucoup moins auprès du patient que maintenant qu'une aide-soignante. Puisque c'est plus son rôle propre à elle, effectivement, de remplir effectivement tout le dossier de soins du patient. Voilà.
Est-ce que ça casse pas le métier d'aide soignante?
Complètement, parce que quand vous arrivez dans la chambre d'un patient, avant vous arriviez comme ça, quoi. Bonjour monsieur, bonjour madame. Maintenant vous arrivez, bonjour monsieur, bonjour madame, mais vous arrivez avec votre écran d'ordinateur et toc toc toc, vous êtes sur votre écran d'ordinateur déjà pour rentrer. Sur le dossier patient pour noter ce que vous allez faire, la tension, la température, enfin voilà. Et du coup, c'est un temps où on n'est pas complètement avec la personne puisqu'on est en même temps sur un écran d'ordinateur.
C'est un côté technique, je veux dire, justement, c'était important justement de suivre le patient.
Non, mais on est d'accord, mais ça se faisait aussi avant. Mais là, on parle beaucoup de traçabilité. Et la traçabilité, c'est passé par l'informatisation. Je dirais que quand on a des gens, on a attaqué l'informatisation en réanimation. J'ai arrêté en 2012. On a attaqué à tout mettre sur informatique en 2008. Et pour des gens en plus qui n'avaient pas l'habitude en plus de l'informatique, vous perdez trois fois plus de temps. Parce que faut changer de page, faut cocher ci, faut cocher
et
là.
Aujourd'hui, je fais un peu l'avocat du diable. Ça sert aujourd'hui.
Avant, c'était des grandes feuilles.
Ça date
d'autant. Vous avez votre feuille et vous cochiez avec un stylo.
Mais ça aide à soigner aussi. Je veux dire, c'est que quand même, il y avait un côté technique. Il y avait un côté pour avancer.
Les soins sont toujours les mêmes qu'avant. Ça n'a rien changé.
C'est pour les statistiques.
Exactement.
Alors.
En fait, c'est pour effectivement tracer en fait, le travail. Parce que tout travail tracé donne en fait rémunération
quantifier. Ça peut
à
quantifier.
L'hôpital. Exactement. D'accord.
Alors, est-ce qu'on pouvait dire qu'il y a 10 ans en arrière, ou même un peu plus quand vous avez commencé en 89, est-ce qu'on pouvait dire avant c'était le côté des patients? Est-ce qu'on peut dire maintenant en 2015 c'est plutôt des numéros?
Ça
dépend
des numéros,
à vous écouter, pas vous personnellement, mais c'est vous qui êtes là avec nous ce soir et on vous en remercie. Il y a quand même ce côté, en même temps, on s'aperçoit quand même, en discutant avec pas mal d'infirmières ou d'aides-soignantes, on a quand même un côté, en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un côté, c'est plus la même chose.
Non,
vous n'êtes plus pareil avec le patient. Mmh. Avant, vous restiez, c'était quoi? Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, attention, vous me reprenez si je me trompe, mais je crois que c'est une infirmière pour, avant, c'était beaucoup de patients, d'accord? Mmh. Avec peu de patients, pardon. Mmh. Et là, vous pouviez vous en occuper, c'était un peu le côté familial. Mmh. Après, il y a les infinités, ça passe ou ça passe pas, on est d'accord. Mais maintenant, c'est plus ce côté du rendement. Mmh, on le voit quand même dans les opérations, parce qu'on parlera des chirurgiens aussi. Après, il y a des choses à dire aussi là-dessus.
La communication avec
les patients. Mais il n'y a plus de communication. Ça veut dire que maintenant, elles ont tellement de boulot. Mais c'est vrai. Pareil, tout à l'heure, on parlait un peu de ce côté un petit peu informatique. Un peu, oui, effectivement, il faut suivre la technologie encore une fois. Mais avant, quand vous écriviez à la main, alors on peut dire que c'est une perte de temps, mais en même temps, vous rigoliez avec le patient. Est-ce que là, et vous êtes plus concentré sur l'ordinateur de ne pas faire de conneries que tout simplement de gommer à la gomme de ce qu'il va vous dire? Ce qu'il vous disiez lui avant, du moins,
mais
vous comprenez.
Et c'est effectivement ce qui fait que après, l'hôpital,
Et ça devient pas, moi personnellement,
payé, quoi, en fait, tout
moi ça va être un petit peu mon coup de gueule parce que je trouve ça pour moi honteux. Je suis franc, hein. Je trouve ça honteux parce que je vais dire, c'est quoi encore une fois? C'est le fric, c'est les gens qui sont au-dessus, d'accord, et qui gouvernent ça et qui mettent. Si je vous dis tout ça, c'est que je vous en parle vraiment en cause, parce que j'ai vécu, moi, ça, je l'ai vécu dans un hôpital qui est pas loin du coin, et je l'ai vécu et j'ai trouvé ça inadmissible. Inadmissible. Et quand on vous dit tout simplement, ah oui, mais vous savez, c'est le directeur, Donc, à partir de là, vous me dites si je me trompe encore une fois, c'est le directeur qui a décidé qu'il n'y a que deux docteurs pour les urgences et il n'y a pas de pédiatrie, il n'y a pas d'une personne qui s'occupe pour les enfants. Et, vous êtes, et quand vous arrivez et qu'on vous dit, en plus, je ne fais pas jouer au départ ma notoriété, j'emmène tout simplement ma fille. Je peux le dire parce que je l'avais déjà annoncé il y a 4-5 mois en arrière. Donc, je vais dire, j'emmène ma fille. La petite histoire, la personne me dit, prenez un ticket, je prends un ticket, tranquille. Et les 11h du soir, on ne sait toujours pas ce qu'elle avait, mot de vente, un truc de fou. Je m'émets à côté d'une personne, comme tout le monde, avec mon petit ticket comme à la sécu. Et puis la personne, bah, discute avec moi. Et puis je lui dis, oui, oui, monsieur, bah, quand les gens font ça, vous savez ce que c'est ? Bah oui, qu'est-ce que c'est ? Bah, ça fait 6 heures que j'attends. Ah bon ?
Bah oui.
6 heures que j'attends. Et l'autre, 8 heures. Je me dis, c'est quoi ce délire ? Et à un moment, mais véridique, vous voyez que je ne me trompe pas. Après, je vais dans le côté pédiatrie où il n'y a personne. Ma fille, toujours mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Bah, un truc de fou, hein, pleurer. Je suis quelqu'un, encore une fois, je ne fais pas jouer ma notoriété, je reste tranquille, mais je m'énerve un petit peu. Je retourne voir une personne à l'accueil. La personne à l'accueil, elle me dit, bah, écoutez, il n'y a pas de bloc. Quand il y a un bloc qui sera libre, eh ben, on pourra faire une prise de sang à votre fille. Je me trompe encore une fois ou pas ? Voilà. Donc, il y a un moment où une heure, j'attends, une heure et demie, j'attends. Et quand vous voyez que votre fille, d'un seul coup, eh ben, elle est comme ça, elle n'en peut plus. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Alors, ce n'est pas des passe-droits. Je sais qu'on est dans un hôpital. Je me suis en excusé après au niveau du domaine de la secrétaire parce qu'elle y est pour rien du tout. Je le comprends. Mmh. Mais il faut nous comprendre aussi en même temps qu'à partir de là, encore une fois, on est du bétail. Je suis désolé, mais je le dis franchement. Et là, j'ai dit, vous savez quoi ? Moi, je suis quelqu'un qui est médiatique. Maintenant, s'il y a dans une demi-heure, quelqu'un vient pas voir ce qu'elle a, parce que je lui dis, est-ce que vous pouvez me donner au moins un cachet ? Elle me dit, non, on n'a pas le droit tant qu'il n'y a pas eu d'auscultation.
Le médecin n'a pas vu.
Mais complètement. Donc, et je lui dis, et c'est là que je lui dis, mais comment ça se fait ? Elle me dit, y a des choses que je peux pas dire comme ça à l'antenne parce que je suis pas là non plus pour balancer. Mais franchement, une demi-heure après. Et eh bien, une demi-heure après, parce que quand j'ai dit, mais moi, je vais faire une RTF1, je vais faire les médias, je les connais. Et là, on va faire un article sur vous, ça va être un truc de fou quand même. Hein. Si tout le monde passe tout bas, mais les gens disaient rien en haut. Et là, vous croyez. Mais franchement, une demi-heure après, elle était au bloc. Elle avait un bloc, du moins, une caisse, voilà. Et là, on y a fait une prise de sang. Et vous vous rendez compte, mais si vous dites rien, ça veut dire quoi ? Mais... dans un box. On attend. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, au-dessus, on se dit, on veut gagner du pognon et on veut pas mettre quelqu'un d'autre.
Non, enfin, gagner du pognon, faut pas dire ça non plus comme ça, mais bon,
non, mais
voilà,
c'est comme ça qu'on
obligé,
le voit, nous.
Ils sont obligés, effectivement, de tenir des budgets et bon, bah voilà, on sait très bien que les caisses de la Sécu, bah voilà.
Non, mais on sait que ça n'a rien à voir avec vous, attention, rien à voir avec vous.
Non, mais ça, j'entends bien, mais bon, c'est un problème qui est complètement général et en France, voilà, et dans tous les hôpitaux, il n'y a pas qu'ici, hein, de toute façon, c'est tous les hôpitaux de France. Voilà, qu'on soit sur des grandes villes, des petites villes, ouais, ça devient catastrophique.
On nous dit, ayant été opéré plusieurs fois, j'ai toujours été chouchouté par les infirmières. Continue ainsi, cela ne me dérangera pas du tout. Bravo à vous, le personnel médical. Mais bien sûr, faut qu'on bravo.
Heureusement, effectivement, qu'il y a encore la bonne foi du personnel et effectivement notre conscience professionnelle. Mais c'est vrai que parfois, ça a des limites, quoi. Voilà.
Ce que je comprends pas, c'est que... ils freinent les budgets, machin et tout, mais ils sont toujours, tout le monde est toujours à restreindre qui manque du personnel. Mais du personnel, il y en a, parce qu'il y a plein de jeunes qui font faire des études d'infirmière.
Oui,
donc qu'est-ce qu'on en fait, ces jeunes ?
Eh ben justement, là, on les embauche même plus.
Ah, donc c'est quand même un...
Là, ça fait 2 ans, sur le secteur de l'Isère, moi, j'aurais jamais cru que ça arriverait, il y a des infirmières qui n'ont pas de poste.
Mais Karine...
Mais comment
parce
ça que, se fait
mais parce qu'ils ne recrutent plus.
Karine...
Ils vous manquez de personnel, plus. Mais ils ne recrutent pas. C'est quand même un con,
mais
quoi.
Voilà,
c'est,
parce que
alors, on va embaucher des gens de l'extérieur, on va dire européens. Hein, on va le chercher...
Non, ça ne l'est plus non plus. Hein. Dernièrement, ça s'est arrêté quand même. Hein.
Ah,
ça,
peut-être ça, par ça ici, mais fait, bon, dans les grandes villes, ils en font la pub chaque fois.
Ils ne sont pas tant restés que ça. Non, à l'heure actuelle, il y a vraiment... Comme sur Lyon, il y avait quand même les agences intérim qui tournaient quand même beaucoup. Il y a pas mal de monde qui faisait de l'intérim, mais il y en a de moins en moins aussi, hein, parce que les robinets sont fermés.
Oui, mais Karine,
il y a un problème des urgences. Les gens vont en urgence pour un an.
On préfère ne pas. On ne recrute plus d'intérimaires pour des remplacements. Il y avait des solutions de vacataires pour les remplacements. On ne les prend plus. C'est-à-dire qu'on est à couteau tiré tout le temps. C'est-à-dire que les hôpitaux sont en auto-remplacement en permanence.
On va parler, on va parler à cœur ouvert. Dans un magasin, qu'on ne recrute pas une personne parce que tout simplement, il y a des problèmes au niveau du domaine professionnel et on se dit, effectivement, bah, elle peut faire le boulot d'une autre. C'est attention, ça reste vital quand même. Dans une boulangerie, dans un truc. Mais là, dans un centre médical où la personne peut décéder à n'importe quel moment, on ne s'occupe pas d'elle parce qu'on dit... Bah, il n'y a personne pour vous.
Non.
C'est quand même honteux.
C'est honteux.
Et le mot est faible.
Mais c'est même pas de la responsabilité des directeurs.
Alors,
c'est de la responsabilité de l'État, complètement. Voilà, ils ferment les budgets, ils ferment les budgets. On sait très bien qu'effectivement, bah voilà, on ne recrute plus au sein de l'hôpital.
Oui.
Au contraire. Et là, la grande mode maintenant, de toute façon, de partout, c'est passer du personnel en 12 heures. C'est-à-dire on travaille 12 heures de suite, jour et nuit.
Et deux jours de repos.
Et du coup... on supprime encore des postes parce qu'on a besoin de moins de personnel sur une durée de 12 heures que sur une durée de 7h30. Donc là, il y a encore des postes qui
alors
partent.
Alors vous qui êtes dans ce métier-là depuis très longtemps, on le rappelle, comment vous voyez l'évolution, vous ?
Pas très bien. Non, ça ne va pas vers le mieux. Hein.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on multiplie la population, que les gens font de plus en plus d'enfants, on agrandit comme des secteurs de la région, et qui fait qu'on a de moins en moins de personnel avec autant de personnes, ça se multiplie par quoi ? Par deux ?
C'est pas assez structuré. Là, on est en train d'entendre les problèmes de grippe qu'il y a eu actuellement, qui a quand même touché
énorme,
pas mal de monde.
Ça a tué 4000 personnes, je crois, c'est ça ?
Et ce qui se passe, c'est ce que je disais...
Émilie
tout à l'heure, c'est qu'au niveau des structures de personnes âgées, c'est vrai que si effectivement on médicalisait un tout petit peu, ces personnes âgées ne se retrouveraient pas en secteur d'urgence et au sein d'un hôpital. Elles seraient traitées en maison de retraite, elles seraient prises à temps. Sauf que bon, il n'y a pas la structure médicale suffisante, donc forcément, ça s'aggrave. Et puis quand ça s'aggrave, du coup, c'est l'urgence, quoi.
Il y a peut-être le problème d'urgence, c'est le côté gratuit de l'urgence.
Non,
il y a ça aussi.
Parce que c'est tellement gratuit qu'on ne va pas avoir de médecins.
Il manque aussi de médecins. Moi, ça fait quand même des années que je suis à Bourgoin. Les médecins, quand je suis arrivée, c'était on ne vous prend plus. Donc aujourd'hui, moi, quand je suis malade, je ne vais pas je vais pas aux urgences. Je vais soit dans SOS 24, soit dans la maison des consultants.
Les maisons des consultants.
Parce que je n'ai pas le choix. Mais
maisons des consultants, on avance les frais.
Voilà.
Donc il y a ce problème-là aussi.
Le peu de fois où je suis allée, la seule fois où je suis allée aux urgences, je me suis fait passer devant au bout d'un moment 4-5 fois. Bon, j'étais avec une amie à ce moment-là, elle est un petit peu haute, c'est le ton. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, quand c'est un enfant qui passe devant vous, vous en fichez. Quand c'est plusieurs adultes, c'est. Mais vous pouvez pas, moi j'en veux pas quand je suis là-bas, aux urgences, j'en veux pas aux infirmières. Parce que
mais
je sais
y a pas
que,
un côté d'abus, justement.
Je
de
sais
ça,
que les pauvres, elles y peuvent rien.
C'est le problème, justement, les urgences devraient être payantes comme tout le reste. Et comme ça, il y aura beaucoup moins de monde. Ce serait vraiment...
Non, il n'y aura pas moins de monde.
Non, je pense pas.
Les gens prennent trop les urgences aussi pour la bobologie.
Mais complètement.
Donc,
Karine, t'as mal à la tête, t'as une grippe.
On va aux urgences.
On va aux urgences. Voilà. On est d'accord.
Et le gros problème, c'est qu'effectivement, il manque de médecins et qu'on aurait des médecins aux entrées des urgences. Ils auraient le droit de dire « on vous prend, on vous prend pas
».
Sauf que vous avez une infirmière qui n'est pas habilitée à vous dire « vous ne restez pas ». C'est-à-dire que c'est sa responsabilité qu'elle engage si elle dit au patient non, prenez pas de ticket, on ne vous prend pas. Alors qu'il y aurait un médecin, il pourrait dire non, votre cas ne nécessite pas une prise en charge d'urgence. Demain, vous allez voir un médecin traitant et ça ira très bien. Sauf que là, on n'a pas suffisamment de médecins non plus et qu'on ne les met pas sur des...
c'est un peu tout de la magouille, comme je dis. On devient vraiment le côté bestial. On n'aura pas trop le temps parce qu'il reste que 7 minutes. Mais on aurait pu parler aussi en même temps des chirurgiens avec les dépassements d'honoraires. Les choses, il y en a des choses aussi à dire là-dessus. Alors, je sais que, bien entendu, vous allez taire le secret professionnel parce que ce n'est pas dans votre branche. Mais là, on parle du domaine médical. Donc, on aurait pu en parler quand même. Je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même absurdes. Je trouve que pour moi, personnellement, des gens très proches qui m'ont dit, et c'est pas des on-dit, des bruits de couloir, des bruits de bar, c'est tout simplement des vraies choses, c'est que tout simplement, venez chez moi, mais c'est un petit peu dur à payer. On dirait que maintenant, il y a quand même un côté du chirurgien discount.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, non,
mais
c'est...
bon, faut quand même aussi, moi, pour avoir travaillé en secteur public et comme en réanimation, faut quand même, ils ont... comment je voudrais dire ?
Parachute dorée ? Non, je sais pas.
Ah non. Ils ont quand même un rythme. Ils font quand même des gardes de 24 heures. Bon, autant les médecins urgentistes que les internes, il faut, enfin, ce qu'ils font, faut quand même le faire. Hein.
Oui.
Voilà, un secteur. Mais bon, je parle du secteur public.
Mais une personne.
Et des salaires du secteur public.
Mais une personne
et
qui va une demi-heure.
Faire autant d'années d'études.
Mais je suis d'accord.
Pour avoir les responsabilités qu'ils ont, et puis la charge de travail, et puis
oui.
tenir sur 24 ou des fois 48 heures sans aller se coucher. Faut quand même,
ouais, mais bon, ils
quand
l'ont
même le faire.
Ils l'ont choisi quand même. Et quand vous prenez qu'une consultation, mais... normalement, il reste une demi-heure et ils leur facturent une journée.
Oui, mais à ce moment-là,
s'il
va être tranquille.
Ça, c'est la médecine à deux vitesses aussi.
Voilà.
Hein,
s'il
va être
tranquille,
public,
il va pas.
C'est le secteur privé. C'est, voilà. Voilà, ça, c'est un autre débat.
Je pense que si on veut
se faire de l'argent, on fait médecin, mais médecin de quartier, pas médecin urgentiste. Parce que urgentiste,
par contre, moi, je dis qu'on se plaît en France, mais il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que les gens. Nous, on a la sécurité sociale.
Ça, c'est dans quelques années, ça existera.
Mais dans le monde
plus,
entier,
ça.
ils ont pas tout ça.
Oui,
et
mais...
quand ils ont un hôpital, quand ils ont le cancer, machin, tout comme ça, eh ben, faut tout payer et ils peuvent pas
mais
payer.
Mais de
gens,
toute façon, petit à petit, en France, on va y arriver. Hein.
Oui,
on
sécurité,
va y arriver, c'est-à-dire qu'effectivement, au sein des hôpitaux à l'heure actuelle, si ça continue comme ça, si vous avez votre famille à côté de vous, eh ben, ça sera tant mieux. Hein, et ça sera comme dans d'autres pays européens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, effectivement, si par exemple vous avez votre papa ou votre maman à l'hôpital et vous n'allez pas le faire manger ou un petit peu le laver, malheureusement, de plus en plus, je pense que ça sera le cas. Hein.
Non, mais je
c'est-à-dire
qu'il
faudra
d'accord.
que les familles soient complètement solidaires. Et, voilà, parce que de plus en plus, comme on restreint effectivement
bah,
de
payant,
plus en plus...
Les hôpitaux, hein,
exactement,
pour les
le personnel,
c'est cher, hein, c'est pas...
bah, y a des choses que, forcément qui passent à l'as. Hein, ça,
et vous ne pensez pas qu'aussi... Alors ça, après, c'est un avis personnel, et après, personnellement, pour vous, et après, on n'y croit pas. Est-ce que pour baisser un petit peu le trou de la sécu, ça ne serait pas aussi le côté, en même temps, de travailler sur la médecine douce, la médecine chinoise, la médecine parallèle, la médecine... ah oui, mais oui, on en rigole. Mais vous savez
ah non,
quoi
mais moi, je suis complètement là-dedans, donc
voilà.
Je rigole pas
bah,
du
moi
tout.
Aussi, c'est pour ça.
Mais
je vais vous expliquer quelque
ouais,
chose.
Ouais, mais vous y payez.
Un
vous payez
ah non.
Votre médecine
alors,
douce.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai eu mon fils qui a eu des problèmes au niveau du domaine de l'estomac, où nous, ici, on donne un spasmon en France, on est d'accord. Je suis parti en Espagne, j'ai trouvé un docteur espagnol, directement, je vais à la pharmacie, il me dit, un docteur là-bas, bon, allez, 4h de l'après-midi, on y va, il se tord des machins et tout. Et je dis, vous n'avez pas un spasmon? Non, ça n'existe pas chez nous ici. Bon, ok, qu'est-ce qu'il faut prendre? Eh bien, là, un truc qui coûte 50 centimes d'euros, hein, c'est pas énorme. Hein. Donc, un citron. Vous prenez un citron, vous le pressez, vous mettez de l'eau et vous faites boire ça. Après, il me dit, c'est bon, demain, il n'a plus rien. Attends, j'attendais. Et mon fils, il pleurait vraiment. Mmh. Hein. Il y a quoi, il y a 2 ans. Hein. Mmh. Je dis, c'est pas possible. Eh ben, vous croyez si vous voulez. Il a pris ça le soir. Mmh. On a pris le petit citron à la supérette à côté. On a pris de l'eau tranquille. Et le lendemain matin, plus rien. Mmh. Comment on explique toutes ces choses-là?
Non, mais tout à fait, tout à fait.
Comment
mais
on
après,
explique...
la France s'automédique. Et puis, effectivement.
S'automédique
on est très...
parce que tout simplement, et dans le côté très cartésien, encore une fois, et oublie les remèdes de grand-mère, oublie le coup de girofle quand on a mal aux dents. Non, mais c'est vrai. Oublie tous ces côtés. Oublie ce côté des cachets antidépresseurs qu'une personne, bah, en travaillant tout simplement sur elle, en travaillant. Son côté de ce qui va pas, en allant travailler son jardin secret, en permettant de développer, de dévoiler ce qu'elle a et de sortir le mal, et on lui donne des antidépresseurs. Alors après, on dit oui, c'est sûr que ça va mieux. Non, c'est les antidépresseurs qui font qu'elle aille mieux. Mais après, dès qu'elle arrête, quand elle peut arrêter. Mais quand elle arrête pas, bah, je veux dire qu'elle reste toujours dans le côté du mal-être.
Ouais, tout
non
à fait. Ouais, mais ça, c'est un grand débat. Hein,
oui, mais c'est un grand débat, on est d'accord.
C'est un grand débat.
Eh bien, écoutez, franchement, on a été ravis de vous avoir accueilli parce que c'est vrai qu'on avait, comme je dis, jamais reçu d'aide-soignante. Vous avez répondu à toutes les questions. C'est vrai qu'auditeur, auditrice, bah, on a essayé, on a qu'une heure en même temps. Ce qui est bien, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que pas une seule fois vous avez botté en touche, d'accord ? Parce que tout simplement, vous disiez le métier, l'amour que vous aviez pour ce métier-là, ce que vous avez vécu, ce que vous voyez aussi par la suite. Donc nous, franchement, moi je sais que personnellement, j'en suis très content parce qu'on a eu les réponses aux questions qu'on a pu poser. Donc des fois, j'ai posé un petit peu des questions par rapport aux éditeurs, auditrices qui nous écoutent et qu'ils n'oseraient pas vous
bon,
poser.
Vous vouliez la petite anecdote, vous ne l'avez pas écoutée d'ailleurs.
Bah, c'est quoi ? Dites-moi, il reste allez, 30 secondes.
C'était un petit grand-père. Alors souvent, pour les personnes âgées qui sont déshydratées, on mettait en fait des perfusions en sous-cutanée, c'est-à-dire
d'accord.
sous la peau.
Ouais.
Et en fait, quand on est passé pour le voir, en fait, il avait juste enlevé sa perfusion et en fait, il l'avait mis dans la bouche, tout simplement. Donc, pas besoin de le piquer. En fait, on lui mettait directement le tuyau dans la bouche.
Ah oui, d'accord. C'était voilà. La petite anecdote de Karine qui était là avec nous et qui est une aide-soignante. Mais écoutez, un jour, vous pourrez revenir parce qu'il y a tellement de choses. Il nous faudrait une émission de 3 heures là-dessus parce qu'il y a tellement de choses.
Ouais.
Mais c'est tellement un beau métier quand même. Heureusement qu'on vous a. Et vous savez quoi ? J'ai pas l'habitude de dire ça. Mais respect déjà. Et on va vous applaudir. parce que sincèrement, mais oui, parce que tout simplement, les gens comme vous, il y en a de moins en moins, vous faites des boulots de fou, vous prenez toutes les choses négatives dans la figure, heureusement qu'il y a des choses positives, mais heureusement qu'on vous a à minuit et qu'on arrive et qu'on voit que vous ayez toujours le sourire. On n'a pas parlé des blues, on n'a pas parlé de ce côté...
Hein, il n'y en a plus.
Ah bon?
Non, c'est unique pantalon, mais non, il n'y a plus de blouse.
Je peux vous garantir que c'est super extra moche.
Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de blouse.
Il est 22h, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci sur le chat. On peut retrouver l'émission demain sur www.couleur-sfm.fr. Le numéro de l'émission, du numéro de téléphone, pardon, c'est 09 79 21 33 77. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouvel invité. Merci Lolo, merci Émilie, merci
Tuff.
Et bien entendu, merci Karine d'avoir été avec nous et au nom de toutes les personnes de Couleur FM, vraiment un grand respect et soyez avec nous le plus longtemps possible. Merci et bonsoir à toutes les infirmières, à toutes les personnes dans le domaine médical et soignantes. On se dit nous à la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Ciao, ciao.
ciao.
Sur le 97.1. Plus d'informations sur le www.couleurfm.fr.